jusqu'à 14h. C'est votre émission On en jase sur les ondes de Boulevard 101. Merci de continuer à réagir au 418-971-1021 également. Je vous rappelle, meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard 101 sur App Store et Google Play Store. Avant de passer à Luc Laliberté, l'excellent chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant au Cégep Garneau. Mathias, rappelle-nous ce contrat de Carl McDavid.
McDavid re-signe avec les Oilers Edmonton pour 2 ans, 12,5 millions. Oui, oui, vous avez bien entendu, seulement 12,5 millions de dollars pour les deux prochaines années pour Connor McDavid à Edmonton. Très bon contrat pour les Oilers qui s'assurent de garder leur joueur étoile pour 3 années, encore en comptant l'année qu'on va vivre présentement. Donc, c'est un très bon contrat. Ça montre que McDavid veut gagner la Coupe cette année. Ça montre toutes les qualités de leader que McDavid a puis que plusieurs personnes doutaient. Ben là, il vous le met en face puis il vous dit hey, « Regarde, vous pensiez que j'étais pas un leader, vous pensiez que je voulais pas gagner. » Mais finalement, vous avez eu tort. 12,5 millions pour 2 ans.
Et voilà, Connor McDavid va aller chercher une Coupe Stanley à Edmonton. Luc Laliberté, notre chroniqueur en politique américaine, est au bout du fil. Luc, je sais que tu es un grand fan de sport. T'en penses quoi de ce contrat-là de Connor McDavid?
Ah, écoute, si comme partisan des équipes canadiennes, parce que le sport s'est beaucoup développé, est né, s'est beaucoup développé ici. Donc, j'ai un petit faible pour les concessions qui nous restent.
Moi aussi.
À défaut d'en avoir une. À défaut d'en avoir une à Québec.
Ça fait 30 ans qu'on n'a plus de Nordique, Luc. Pensez à ça.
Ouais. Puis écoute, j'aurais adoré un retour des Nordiques parce que je suis de Trois-Rivières et j'étais un grand fan des Canadiens. Donc maintenant que j'habite Québec, c'est ma ville, dont je suis bien fier. Écoute, j'aurais été déchiré, mais comment refuser d'appuyer mon équipe locale? Donc, tout ça pour dire, très content pour les fans d'Edmonton, puis ben, on aura le meilleur ou un des meilleurs au Canada pour encore un moment.
Clairement. Luc, très bonne nouvelle. Israël qui a expulsé 171 militants, donc Greta Thunberg, ça s'est fait aujourd'hui. Donc, les gens là, qui s'étaient justement mobilisés dans des flottilles pour tenter d'amener de l'aide humanitaire à Gaza. Là, il y a des négociations en Égypte à l'heure actuelle, parce que l'échéancier de Donald Trump, le deadline, si je m'exprime en anglais, de dimanche soir, n'est pas respecté par le Hamas.
Non, voilà, ça a été dépassé. Et le Hamas a, dans sa réponse, écoute, d'abord, mettons une chose au clair, on est qu'on soit Donald Trump ou pas, peu importe le président américain qui est là, tu dois négocier d'un côté avec un groupe terroriste qui a perpétré un attentat terroriste. Donc, c'est un groupe avec lequel c'est très difficile de négocier parce que une des raisons de son existence, c'est finalement la disparition de l'État d'Israël. De l'autre côté, c'est un gouvernement qui a rarement été aussi extrême en Israël que celui du premier ministre Netanyahou et de ceux qui l'aident, parce que c'est un système qui est plus complexe que le nôtre là, à expliquer. Oui. Mais donc, on a quand même, il est associé à une faction très, très radicale. D'un côté, donc, t'as le Hamas. De l'autre côté, t'as M. Netanyahou qui, bien souvent, a embêté les présidents américains, peu importe lesquels, parce qu'il dit une chose dans une conférence de presse, il dit une chose lors d'un appel, et bien souvent, il gagne du temps, il reporte, il contourne.
Donc, et d'autant plus, Luc, dans le conflit actuel, là, l'attaque sur l'Iran, l'attaque au Qatar, vraiment, Donald Trump est pro-dépourvu là, par Netanyahou.
Oui, puis Netanyahou et Vladimir Poutine ont bien compris le poids dont ils jouissent, dont ils bénéficient auprès de Donald Trump. Et M. Trump a beau hausser le ton, jusqu'à maintenant, ça ne se limite qu'à ça. Quand il menace Israël ou quand il négocie avec Israël ou qu'il menace la Russie de sanctions, pour le moment, c'est le ton qui change, rarement les actions. Donc, Donald Trump avait dit la semaine dernière, ça avait surpris un peu tout le monde. Il paraît que ça avait même surpris les négociateurs dans le camp américain. Il dit au Hamas, écoutez, on avait dit qu'on vous laissait plus de jours là, pour accepter. Maintenant, ça devrait être dimanche 18h. Dimanche 18h est passé et on avait eu une réponse du Hamas qui était, on accepte, mais. Donc, on est dans le mais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on accepte de négocier. Donc, le Hamas a acheté de cette façon-là un peu de temps en disant à Donald Trump, on accepte une partie de l'offre que vous avez fait, on le fait avant le délai que vous avez proposé. Maintenant, il faut quand même négocier. Mais quand Donald Trump a avancé l'échéancier, ça a exercé des pressions sur les négociateurs américains, mais aussi sur les négociateurs dans la région. Faudrait le reconnaître si Donald Trump parvient à calmer le jeu. Il avait été prêt de le faire, d'ailleurs, avec des pays arabes ou musulmans, ou des pays arabo-musulmans. Il était en train de développer une forme de collaboration entre ces pays-là et Israël. c'était bien sûr avant que le Hamas pose son ou fasse procède à son attentat terroriste. Donc, faudra voir, hein, il y avait 20 points dans le plan proposé par Donald Trump, appuyé par M. Netanyahou. Quand tu évoquais le Qatar, derrière M. Netanyahou, il y avait 21 points dans le traité au départ. Et le 21e point a sauté quand le premier ministre Netanyahou a assuré le Qatar qu'il n'y aurait plus d'attaque au Qatar. Pourquoi le Qatar, en passant, pour ceux qui sont à l'écoute? Bien, parce que c'est là que se trouvent certains des dirigeants du Hamas, parce qu'on les accepte là, parce qu'on les protège. C'est la raison pour laquelle Israël avait tiré en direction du Qatar. Mais là, on a dit au Qatar, ça n'arrivera plus, ça ne surviendra plus. Donc, on a le Hamas qui cherche à gagner du temps. Puis on a M. Netanyahou de l'autre côté qui, lui, a continué à bombarder la bande de Gaza, même si là, plus récemment, il a accepté de cesser de le faire. Donc, on sent bien dans les deux camps que c'est très volatile, que c'est très fragile. Mais s'il faut y voir quelque chose de positif, c'est qu'on est assis et on négocie présentement et qu'il y a une volonté dans la région de faire avancer ce dossier-là, au moins de parvenir à un cessez-le-feu et de débloquer de l'aide humanitaire.
Donc, c'est très positif. Maintenant, ce qui se passe en solde américain, on parle de garde nationale à Portland, en Oregon, à Chicago, en Illinois. Est-ce que Donald Trump est en train de mettre la guerre à l'intérieur de son propre pays?
Écoute, ça devient très difficile d'affirmer que Donald Trump ne cherche pas à provoquer des soulèvements ou à provoquer des réactions. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'il défie les tribunaux quand il fait ça. On lui avait dit à Los Angeles, après coup, mais il y a un tribunal qui avait dit ce que le président a fait à Los Angeles, c'était illégal. Il n'y avait rien qui justifiait le déploiement de la garde nationale à Los Angeles. On a bloqué le déploiement de la garde nationale, en tout cas du moins devant les tribunaux. On a dit ce que vous faites à Portland, donc en Oregon, ce n'est pas justifié non plus. Et la ville de Chicago et l'État de l'Illinois sont également devant les tribunaux pour s'opposer au déploiement de la garde nationale. Rappelons, c'est très important pour ceux qui s'intéressent au dossier, dans presque tous les cas de figure, c'est un gouverneur d'État qui demande l'appui de la garde nationale pour un état d'urgence, pour une situation à laquelle les forces de l'ordre locales ne peuvent plus répondre.
Mais là, Donald Trump l'impose unilatéralement.
Voilà. Et ce que les tribunaux ont répondu, c'est « vous n'êtes pas parvenu à faire la preuve », parce qu'il a le droit, le président, de le faire dans certaines circonstances. Ouais. Et ce que les tribunaux ont dit, et ce que moi j'avais très hâte d'entendre, c'est « est-ce que Donald Trump est capable de faire la preuve que l'intervention de la garde nationale était justifiée ?» Puis tout le monde a bien remarqué qu'il ne s'agit, quand il parle de la garde nationale, que d'États ou de villes qui ont des gouverneurs ou des maires démocrates. Il y a de grandes villes américaines où il y a de la violence et qui sont dans des États républicains ou gérés par des maires républicains. Aucune de ces villes ou de ces États-là n'a été inquiétée jusqu'à maintenant. Donc, il semble déjà y avoir un biais au départ. Mais plus important, est-ce qu'on a l'argumentaire au plan légal pour dire le président a le droit de faire ça? Jusqu'à maintenant, on lui dit non. Et la prochaine étape, pour des gens comme moi, c'est fascinant. Pour les gens sur le terrain, c'est inquiétant. C'est la Cour suprême. Que va dire la Cour suprême face aux décisions du tribunal, appelons ça de tribunaux de première instance ou de tribunaux inférieurs?
Et là, Luc, est-ce que la Cour suprême a un penchant plus républicain-conservateur avec les dernières nominations?
C'est-à-dire qu'il est clair au plan, je dirais pas républicain, ce serait malhonnête, mais il est clair que quand on a recruté les juges, entre autres Donald Trump a eu l'opportunité d'en nommer trois, c'est quand même assez exceptionnel pour un même président, il a choisi des gens qu'on associe clairement à une interprétation de la Constitution qui est plus conservatrice. Donc, on l'a bien vu, le cas, un des cas les plus spectaculaires, c'était le cas de l'avortement. Cette cour-là était beaucoup plus conservatrice dans sa composition que les précédentes des dernières années. Donc, est-ce que sur cette question-là, les juges qui sont, on les appelle dans le jargon les originalistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour une interprétation serrée de la Constitution dans le sens qu'on lui donne à l'origine? C'est un peu technique, il faudrait expliquer plein de choses, ça me prendrait un cours, mais grosso modo, s'ils sont vraiment collés à la lecture qu'on fait habituellement de la Constitution américaine, on pourrait penser qu'ils refuseraient à Donald Trump d'intervenir à la lumière des preuves dont on dispose. Mais il faudra voir. Donc, être conservateur, c'est pas forcément être républicain, mais ces juges-là ont une lecture conservatrice du contenu, de l'esprit de la Constitution. Et c'est très clair que quand on a pensé la Constitution américaine, quand on l'a amendée, qu'il faut laisser aux États, aux États-Unis, le plus de pouvoir possible. Et c'est là où ça choque quand un président dit « je décide d'envoyer la garde nationale ». Habituellement, ça se fait en sens inverse. C'est un gouverneur qui dit « on l'a échappé, on craint pour la sécurité, les forces de l'ordre sont insuffisantes, envoyer la garde nationale, nous aider ». Et habituellement, un président américain répond « oui ». Mais c'est très rare qu'il va faire ce que Donald Trump vient de faire et ce qu'il a déjà tenté de faire.
Luc, en terminant, est-ce que justement, oui, il y a un lien à faire entre cette guerre maritime qui s'en va dans certaines villes aux États-Unis et la bataille à l'heure actuelle qu'on se livre sur le budget aux États-Unis entre les républicains et les démocrates, à savoir que Donald Trump veut tenter de faire passer la criminalité puis le Parlement ou justement les États-Unis qui sont au ralenti sur le dos des démocrates?
Ouais, ça, c'est une autre bataille qui est importante parce que ça se joue à la fois sur des sujets très sérieux puis des sujets pour lesquels les politiciens devraient avoir une attitude qui est très, 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 très responsable. Et ça joue aussi sur les perceptions, c'est-à-dire qu'en pensent les Américains. On est à un an et un mois des élections de mi-mandat en politique américaine. Ça file à une vitesse folle. Jusqu'à maintenant, ce sont les Républicains et Donald Trump qui portent l'odieux des négociations. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un écart de 9 à 10 % dans les perceptions. Donc, on trouve que c'est l'attitude et la gestion républicaine et celle du président qui ont entraîné la fermeture des services gouvernementaux. Donc, est-ce que les républicains vont être les premiers à céder dans ce bras de fer-là? Ça va être intéressant parce que actuellement, ils ont la population contre eux. De l'autre, les démocrates, ce que je leur reproche, c'est qu'eux mettent de l'avant surtout l'accès aux soins de santé. Et l'accès aux soins de santé, ben, on l'a élargi grâce à la présidence d'Obama, ce qu'on appelle Obamacare ou l'Affordable Care Act. Mais les coûts des soins de santé explosent aux États-Unis parce que ça avait été une faille ou une faiblesse du président Obama, c'est-à-dire de ne pas intervenir dans les prix, justement, ou dans l'économie du marché. Et il y a maintenant des coûts, entre autres ceux des compagnies d'assurance, qui sont très, très élevés. Ça coûte très cher aux Américains, tout ça, et il faudrait que les législateurs le regardent. Donc, il y en a beaucoup qui veulent les soins de santé aux États-Unis, d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de notre modèle, mais on le sait bien ici aussi, ça coûte très cher, tout ça. Et je trouve que les démocrates l'échappent un peu au sens où ben, ils veulent continuer à couvrir les gens, mais sans égard au coût. Et les républicains, eux, disent, ben, on n'a pas cet argent-là. Nous, on préfère, par exemple, donner des allocations pour des réductions d'impôts, entre autres aux individus les plus riches aux États-Unis. Mais il n'y a personne qui attaque le véritable problème de fond des soins de santé, qui est l'explosion des coûts. Donc, on est vraiment... Les démocrates ont le beau jeu au sens où ils veulent protéger le plus de gens possible. Mais il y a un problème de coûts qui explose. Et ça, moi, j'entends personne en parler intelligemment ou avec même l'ombre d'une solution.
Luc, la liberté, c'était tellement bien expliqué que j'ai tout compris, puis j'étais mélangé pas à peu près en lisant mes articles en fin de semaine. Merci infiniment, Luc, pour cet excellent résumé de la politique américaine, et on se reparle bientôt, assurément.
Toujours un plaisir, Jeff. Salutations à tous les auditeurs et auditrices.
Yes, salut, Luc. Merci beaucoup. Ouais. Luc, la liberté, on a le bonheur de l'avoir sur nos ondes, chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant, justement, de l'histoire des États-Unis au Cégep Garneau. Je vous parle du podcast Hors-Série. C'est l'espace où plusieurs animateurs de Boulevard 102.1 prennent le micro pour mener des entrevues longues et approfondies sur une variété de sujets. Des conversations qu'on n'a pas le temps d'avoir à la radio, mais qui méritent d'être entendues. Mais là, à soir, Mathias, c'est-tu quoi? C'est même pas un animateur de Boulevard qui prend le micro. C'est un animateur surprise. Dans le cadre des 20 ans de carrière de Denis et Véro, il s'entretient au sujet de leur carrière en radio depuis leur début, leur changement de case horaire. On en apprend plus sur nos animateurs Denis et Véro. C'est présenté par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts, de la micro d'exception à la bière de soif parfaite. Deux succursales à Beauport et Saint-Émile. Santé, guys. T'as-tu une petite idée de qui pourrait être cet animateur surprise?
Et je dois te dire que non, malheureusement.
Moi, j'en ai une très, 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 très bonne idée. Je ne la nommerai pas en nombre parce que sinon mes patrons vont me fusiller. Mais je vous dirais que vous ne serez pas étonnés. J'en suis convaincu. Ça va être un podcast. Ça n'a pas manqué ce soir, 19h, le podcast hors série. On revient plus terre à terre ici à Québec après avoir parlé des États-Unis. Sam Ahmad qui a fait une très belle annonce aujourd'hui. aujourd'hui concernant la construction du nouveau centre communautaire Charles-Auguste Savard.
Oui, puis on s'en va dans les banlieues pour l'affaire, donc dans le Bourgneuf. Très, très belle annonce. Là. C'est en gros, là, ce fameux centre communautaire-là était censé être en fait démoli et rebâti. Initialement, c'est un projet qui avait été promis en 2018 par le maire Labombe. À ce moment-ci, on parlait d'un agrandissement pour le centre communautaire. Après quelques études, on s'est rendu compte que ça valait pas la peine, qu'on allait simplement le mettre à terre et en construire un nouveau. Ça avait été promis par le maire Marchand également de construire ce nouveau centre communautaire-là. Malheureusement, le projet a été annulé l'an dernier. Puis aujourd'hui, Sam Ahmad était devant les médias pour justement dire que son parti, Leadership Québec, comptait, dès leur arrivée au pouvoir, mettre enclencher le processus pour construire ce nouveau centre communautaire-là. Présent aussi, il y avait Stéphane Bauduc, anciennement directeur des loisirs de Neuchâtel, mais maintenant membre du conseil d'administration, qui affirme que lorsque le projet a été annulé par le maire Marchand, il voyait quand même un drôle de lien entre l'annulation du projet et l'annonce du nouveau centre de Curling.
Tiens, on écoute M. Bauduc.
Pas quand le centre est arrivé, on n'a pas été mis au fait de quand le centre est arrivé dans le décor. Mais étrangement, quand on nous a annoncé qu'officiellement le projet était mis sur la glace, peu de temps après, on a appris qu'il y avait un projet de curling qui se réalisait. Je n'ai rien contre les joueurs de curling, là, soyons bien clairs. Là, okay? Ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir des équipements dignes de ce nom et d'être capables d'en profiter. Ce qu'on trouve déplorable, c'est que ici, on rejoint des dizaines de milliers de personnes qui utilisent les services de loisirs. Et on passe notre temps à dire que l'activité, le sport, c'est la santé. C'est important d'avoir des loisirs de proximité. C'est ce qu'on offre ici. Ce qu'on nous demande seulement, c'est qu'on nous donne les moyens d'offrir ces services-là à la hauteur de ce qu'on est capable d'offrir. Ça fait 50 ans bientôt que Loisirs et Sports Neuchâtel existe. Là. On offre un service de qualité aux jeunes du secteur, là. Puis on veut en donner encore plus, puis des services encore plus larges. Mais pour ça, ça nous prend des moyens, puis les moyens passent par un nouvel équipement, parce que présentement, vous allez le voir tout à l'heure, là, on n'est plus capable de faire de croissance par l'intérieur avec ce qu'on a ici.
Oui, il a tellement raison, M. Bauduc, parce que les loisirs de proximité, on n'y pense pas souvent, mais avec le coût de la vie qui a augmenté, les familles qui se retrouvent de plus en plus dans les banques alimentaires, il y a plein d'enfants que le seul loisir qu'ils peuvent avoir, c'est le loisir financé par la ville. C'est-à-dire que ça va te coûter à peu près 80$ pour faire 15 cours de basket. Je te mets ça beau. Et si on n'a pas des centres adéquats pour le faire, on ne peut pas le faire. Et c'est la problématique présentement. Le centre Charles-Auguste Savard qui a trop dépéri, donc on doit justement reconstruire un nouveau. C'était évalué à 28 millions de nouveaux centres. Et tiens, le centre de curling va coûter 39,5 millions. Et on sait, dans le débat Marchand-Ahmad, Bruno Marchand a dit « Mais vous auriez fait quoi avec le centre de curling? J'ai pas le choix de le bâtir. Je veux les Jeux du Canada. » Il a raison en partie. Je veux les Jeux du Canada. J'y donne raison. L'autre partie où il n'y a pas raison, c'est que normalement, quand tu as les Jeux du Canada, le gouvernement fédéral et provincial se doit de financer tes infrastructures.
Oui, effectivement. Sont censés aider, du moins.
Exactement.
Mais c'est ça. C'est sûr. Est-ce que c'est vraiment en lien avec ça? On ne sait pas, mais du côté de M. Bauduc,
c'est un timing. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard la vie, donc c'est un bon timing. En passant, il y a 27 minutes sur le Facebook de Boulevard, je ne l'avais pas vu parce que je suis en train d'animer, on a annoncé que c'était Pierre-Houd qui allait être l'animateur de ce podcast spécial avec Denis et Véro.
Ça va être intéressant. Ça va être fou, Red.
Pierre-Houd avec Denis et Véro. Sa maman est-il revenu sur ce débat ici en ondes à Boulevard jeudi dernier?
Oui, je l'ai dansé. Bon. Bruno Marchand a réagi vendredi en disant être déçu du ton que sa maman avait employé. Il a accusé à nouveau sa maman de faire de la vieille politique. Donc, je voulais avoir... C'était quoi le ressenti de M. Ahmad face à ça?
En fait, là, ce qui est important, c'est répondre aux questions. Et vous avez remarqué, j'ai donné la chance à tous les niveaux. J'étais surpris, d'ailleurs. Vraiment surpris. Sur le tramway, il y avait des questions fondamentales qui ne répondaient pas. Et là, je dis, coudonc, là, je l'ai regardé, oui, c'est M. Marchand en face de moi. Après ça, ben la masse salariale, non. 721 millions de dépenses de masse salariale qu'on fait. Il me semble que quand vous demandez à n'importe quel dirigeant, la masse salariale, là, c'est fondamental. Le nombre d'employés, c'est fondamental. L'équivalent temps plein, là, parce qu'on calcule pas le nombre des gens qui sont 2 mois. Ça, pour moi, là, c'est un vrai débat. C'est des vrais chiffres qu'on devrait savoir et pas arriver à... Alors là, quand vous posez une question, moi, je pensais qu'il va me donner la réponse rapidement puis on passe à d'autres appels, mais là, on tournait à gauche, à droite, puis là, ça répondait pas. Alors, j'avais le droit d'insister pour avoir la réponse.
Écoute, j'étais de ceux qui pensaient que Sam Ahmad avait été trop agressif. Mais vendredi, Irénée Rutema, un excellent chroniqueur politique qui est sur nos ondes à chaque vendredi, nous a dit « Hey, ça va servir ses partisans. » Il le voulait plus fougueux, plus vigoureux. Il voulait un Sam Ahmad qui attaque. Et par texto, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, j'ai pas le choix de dire que Sam Ahmad a réussi un bon coup.
Oui, puis il faut que je le dise. Qu'on soit d'accord sur le fait que c'était pertinent ou non qu'il attaque sur ces chiffres-là, ouais. Moi, ce ton-là qui a repris aujourd'hui, ce ton-là un peu plus mordant, un peu plus punché, j'aime ça. Ça vient me chercher. Oui. Puis je pense que ça vient chercher beaucoup de personnes. Puis je l'ai senti, là, vous n'avez pas entendu le reste du point de presse. Mais on a eu un Sam Ahmad vraiment. Ah, c'est terrible qu'est-ce qui se passe à ce centre communautaire-là. Plus relax, plus qu'il est là pour faire son annonce, même pendant
puis
qu'on parlait
d'un. Parle de Bruno Marchand. Ah, ouais. Paf!
Là, ça allume. Ah, on vient puncher. Ça. On a du mordant. Ouais. Puis ça, j'aime ça. On l'attaque pas personnellement. Là.
On attaque les idées.
Exact. Puis on attaque sur des choses concrètes. Qu'on dise si c'est pertinent ou pas, rendu là, il y a place à l'interprétation. Mais on attaque. C'est vrai que quand il a demandé à masse salariale, Bruno Marchand n'a pas été capable de répondre immédiatement. Il a raison, M. Ahmad, sur
exactement.
Ça.
Exactement.
Fait que de dire, hey, j'ai du mordant, puis je continue dans ma lancée d'être plus punché, d'être plus critique envers Bruno Marchand, sans l'insulter pour autant. J'aime beaucoup ça de la part de M. Ahmad. Puis j'ai pas le choix de le dire, Jeff, c'était une très bonne sortie pour les deux Shape Québec.
Ben, tant mieux.
Lundi passé, je suis allé à l'annonce de leur nouvelle candidate. Je suis revenu. Je l'ai dit que c'était un peu plus difficile.
Ouais.
J'ai pas le choix de te dire aujourd'hui, c'était une très bonne sortie, un très beau projet, puis un Sam Ahmad qui a un ton que j'aime beaucoup.
Tant mieux. Et demain soir, ça sera un grand moment pour la campagne électorale municipale, car ça sera le débat des 6 candidats à la mairie à la Chambre de commerce de Québec. J'y serai et je vais vous revenir là mercredi avec justement des extraits et mon analyse de la situation. Merci de réagir au 418-971-101. Vous l'avez vu, une preuve quand vous réagissez, que vous nous faites réfléchir. J'avais complètement interprété la réaction, je veux dire, le comportement de Sam Ahmad dans le débat d'une autre façon que vous. Et je me range derrière vous, chers auditeurs. Vous m'avez convaincu comme quoi il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. On fait une courte pause à Boulevard 102.1. Vous êtes à l'émission On en jase. Et par la suite, c'est Philippe Dubois, analyste et chroniqueur politique et professeur adjoint en communication à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, qui va venir nous parler. On termine l'émission avec le sujet qu'on a commencé, c'est-à-dire les fameux propos haineux sur les médias sociaux à l'endroit de nos politiciens. On en jase.